Les mains dans la pop.
Ok.
Les mains dans la pop.
C'est les mains ?
C'est ma nouvelle obsession.
Mais dans la pop.
Bonjour les amours et bienvenue dans Les mains dans la pop. Je suis trop contente de vous reparler ici Mao Drama. J'ai fini par revenir de vacances ou de burn-out, c'est à vous de choisir. En face de moi, il y a l'incroyable
Audrey.
Avec Audrey aujourd'hui, on va parler actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Oh là là, ça m'avait trop manqué de dire ces phrases, on dirait que je présente Gossip Girl. XOXO, une exposition au musée Galliera. Alors aujourd'hui, le thème du jour nous paraissait évident. On va parler des drag queens. Avec ouais. Le succès de Dragaz France et notre incroyable nouvelle reine de France qui s'appelle...
Alors, je n'ai pas regardé
que Fiona soit reine. Ah non, okay.
Non, pas du tout. J'avais un petit trou parce que j'ai pas encore tout regardé. Oui, je sais.
Ah non, je m'as spoilé.
Non, tu m'as pas spoilé. Okay, tu m'as pas spoilé.
Ouf. Ça m'a fait gravir, genre 3 jours après la finale, j'ai mis... Tu vois, un post, et les gens te demandent genre, merci de me spoiler. Je me dis, à un moment, ça va, ok? T'es connecté au monde réel.
3 jours après, t'abuses.
Ouais. Donc, c'est court.
Ah ouais, c'est court.
T'as mis moi le soir même. Bon, bref. Donc, c'est Keyona, si vous viviez sous la mer. C'est Keyona qui a gagné cette 2e édition. Et ça nous a donné envie de nous pencher sur l'histoire des drag queens. Comment arriver jusqu'à leur avènement? Quelle lutte de droits civiques accompagne aussi leur parcours? C'est ce qu'on verra. Mais avant tout, on commence par le gagnant. Ou la gagnante, ou le perdant, ou la perdante, selon l'écriture inclusive à l'oral, mais j'y tiens. De la semaine. Win ou lose, telle est la question.
Quel loser ?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop. Icône.
Le gagnant ou le perdant de la semaine.
Roulement de tambour.
Alors Mao, en jugé par le titre que je vois sous les yeux, j'ai l'impression que tu vas commencer par un loser.
Bah, tu vas pas le croire, c'est mon winner.
C'est vrai ?
Oui, okay. Je sais, c'est une révélation. C'est un peu genre comme le personnage principal qui est en mode depuis le début, en fait j'étais gentil, c'est juste que j'étais malheureux quand j'étais petit. C'est pour ça que je t'ai tiré les couettes à la cour de récréation. En fait, mon winner, c'est le pape. C'est pour ça qu'il m'a marqué le pape est une gauchiasse. Mais pour moi, gauchiasse, c'est un peu un compliment en fait.
Ouais.
Quand on me traite de ça, qu'on me dit tu viens des merdias, je suis en mode genre merci.
Non, souvent... j'ai juste vu le pape, je me suis arrêtée là, je me suis dit c'est forcément loser, mais pardon.
Alors, j'espère te convaincre. Tu vas voir. Le pape, pour la première fois en 500 ans, est allé à Marseille pour flirter avec Jules et tout le monde. Et il a donné rendez-vous à tous ses fidèles. Plus je parle, plus tous ses fidèles. 70 000 d'entre eux, j'ai l'impression qu'on parle d'une secte. Mmh. Ils se sont réunis au stade Vélodrome où il a prononcé un discours historique qui a mis un peu mal tous les gens qui portent des foulards Hermès et des sacs. Voilà, je connais pas les marques de luxe. J'étais en mode genre, il y a quoi d'autre à part? Qu'est-ce qu'on porte dans le 7e arrondissement à part ça et Max Mara?
Me demande vraiment pas, moi.
Ok, bon. Parce que en fait, il a fait un discours plein de solidarité en appelant chaque gouvernement d'Europe et du monde d'accueillir les migrants. Sauf que la plupart des fidèles qui sont là sont souvent catholiques fervents et souvent, sociologiquement, il a été prouvé que ce sont des gens de droite. Et souvent, sociologiquement, quand t'es de droite, tu penses que la cistana, c'est un vrai truc. Donc, petite rockstar, aux antipodes des idées politiques souvent prônées dans les milieux catholiques conservateurs, le Saint-Siège s'est montré extrêmement ferme, je le cite... L'indifférence devient fanatique. Je l'imagine parler comme ça, très sérieusement.
Très robotique.
Et les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que c'était heureux qu'enfin quelqu'un le dise. Tu te rends compte, il a, je pense, le discours le plus à gauche qu'on a vu en Europe depuis... Je sais pas depuis quand. Peut-être
depuis
les années 80-70. Il s'est également prononcé de façon progressiste pour l'aide à mourir. Il a alerté sur le danger, je cite, de la perspective faussement digne d'une mort douce. Or, le projet sur la fin de vie devrait vite arriver en France. Ça devait être examiné fin juin, avec la mort de Naël et les émeutes que cela a justement provoqué. Ça a été remis à plus tard et donc le texte va de nouveau être discuté dans les assemblées. Voilà.
Ok.
Donc, il n'a plus qu'à dire « I love gays and I am gay since the beginning.
Vraiment
and
is one of us. » Le pape dans le jury de prochain Drag Race.
Drag Race. Virginie Despentes et le pape, le Saint-Siège, est avec nous avec son chapelet d'enfer. Grave, trop hâte de voir ça.
Franchement, en vrai, pas mal. J'enchaîne avec un petit winner.
Ouais, je suis contente de t'avoir persuadée que le pape était quelqu'un de bien.
Attends, je me suis juste pas entièrement convaincue. J'ai aimé l'idée du pape dans le jury de Drag Race. Alors moi, je vais parler d'un winner aussi. Je vais parler de la série Sex Education. Je sais pas si toi, tu l'as regardée.
J'ai regardé la saison 1, je pense.
Ok, d'accord. T'as bien aimé ?
J'ai bien aimé.
Ok.
Je trouvais que c'était bien ficelé. J'ai trouvé les personnages bien. En fait, j'ai juste trouvé ça bien. Genre, Ouais. Genre un ex à qui t'as rien à reprocher. C'est pas...
C'est lisse.
C'est juste. Voilà, mais 15 sur 20. Je suis contente que ça existe. Voilà.
Merci Télérama. Et du coup, ouais, donc la série Sex Education, là, qui a sorti sa nouvelle saison le 21 septembre dernier, mm-hmm. donc il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'associe au planning familial pour lancer une hotline Sex yes. Education pour répondre aux questions des ados. Donc en fait, à l'occasion du coup de la sortie de cette nouvelle saison, le planning familial a fait un partenariat avec Netflix. Mm-hmm. Et en fait, selon la présidente du planning familial qui s'appelle Sarah Durocher, ben en gros, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'ados qui parlaient déjà en fait de la série en faisant appel au planning familial, qui voilà, parce que ça les a aidés. C'est devenu un peu une mm-hmm. référence pour les ados. Et donc, ils se sont dit, ben autant s'associer à eux vraiment. Et donc, il y a une campagne d'affichage dans toute la France. Moi, je crois que j'en ai vu à des arrêts de bus qui vise à sensibiliser les jeunes à la sexualité, à offrir mmh. des réponses à leurs interrogations. Et puis, il y a un petit rappel du numéro vert de l'association. Donc, je le rappelle, 0800 08 11 11. Et en ligne, il y a aussi une campagne qui est relayée par les créateurs de contenu. Donc, il y a Shira, Kerensky, Meryl B, Ben Never, Edouard Saad, mm-hmm. Anissa Maï, j'en passe.
Ah, j'adore Anissa.
Et en gros, tous ces influenceurs, influenceuses-là recueillent des questions des jeunes dans des micro-trottoirs. J'ai déjà vu passer sur TikTok.
Ouais.
Oui, parce que je passe mon tour sur TikTok. À travers toute la France. Et en gros, ces questions-là, ensuite, elles vont être diffusées sur les réseaux sociaux avec des réponses par une psychologue, sexologue. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et je me dis, hâte qu'autant de moyens ouais. soient déployés de la part de l'État.
Oui.
Dans les écoles,
oui,
etc.
C'est
quoi.
Ouf.
Qu'ils soient aussi créatifs.
Oui, c'est ouf comme on sous-traite juste à des associations tous les enjeux principaux. L'immigration juste avant. Mmh. Je pense toujours des associations qui s'en occupent. Bon, là, le planning familial, franchement, slay, quoi.
Vraiment. Donc voilà, bravo. tu veux peut-être passer à un truc un peu plus négatif.
Oui. Alors écoute, c'est pas pour condamner quelqu'un parce que la justice s'en est chargée, mais plutôt parce que je trouve que c'est un peu la nouvelle qui a secoué le monde de la pop et de la musique ce week-end, mmh. c'est la condamnation à 12 ans de prison ferme du rappeur MHD.
Ah oui.
Je fais un petit rappel des faits parce qu'on dirait... Je sais qu'il y aura des épisodes de On de la traconte, voilà, sur ce fait divers dans quelques... Je le vois déjà imiter MHD en faisant « Wesh, wesh !» parce que je fais ça, mais il est raciste et en plus sexiste, On de la traconte. Du coup... Il fait des accents dans ce podcast.
Ok, intéressant. On ne
Bref,
fera pas.
N'écoutez pas, c'est ma non-reco du jour, on de la raconte. Alors, petit rappel des faits. En juillet 2018, un jeune homme, Loïc K, est sorti de sa voiture en pleine nuit et est lynché par une dizaine d'individus sur fond de règlement de compte entre bandes rivales de la cité des Chauffourniers dans le 19e arrondissement de Paris. Je trouve qu'il y a déjà un ton chronique criminel. Je suis
Vraiment,
désolée, mais, je sens
mais
le podcast,
j'étais hyper plongée dedans, continue.
La voiture du rappeur, initiateur de l'afro-trap en France. Je fais des bruitages aussi. Est formellement identifié sur les lieux. La voiture sera retrouvée brûlée. Il se défendra longtemps, car il dit « je la prête à des proches ». Mais non, je n'imiterai pas d'accent, je ne suis pas on de la traconte. C'est sa teinture blonde à l'époque qui le trahit, qui est visible sur une vidéo. On le voit tirer la victime et lui asséner deux coups à la tête, qui participeront au fait que ce sera fatal. Le chanteur nie, et surtout la police ne parvient pas à faire parler les témoins. Aucun ne viendra à la barre, maintenant le procès s'est terminé, malgré des mandats qui demandent que tu sois présent à un procès. Okay. Les 6 personnes convoquées ne sont pas venues parce qu'il y a, je cite, un climat de terreur selon l'avocate de la partie civile. Les gens ont peur des représailles. Alors, tout le monde n'a pas été condamné. Il y a une personne qui est encore en cavale, qui a été condamnée à 20 ans, même s'il n'était pas présent. Une autre personne, ou au bénéfice du doute, on n'a jamais su s'il avait vraiment été présent, n'a pas non plus été condamnée. Mais sinon, pour tous les autres prévenus, ils ont pris entre 5 et 20 ans.
Okay.
Voilà, donc MHD, j'espère que tu apprendras ta leçon. Je sais pas quoi dire à quelqu'un qui va en prison, en vrai, je sais même pas si c'est le...
Mais
faut est-ce pas que... tuer les gens, MHD, je sais pas quoi dire.
C'est dans les commandements de la Bible.
Quoi ? Oui.
Ok, bah merci Mao pour cette chronique, j'étais à fond dedans. Surtout que j'adore les chroniques de faits divers, donc j'étais à fond.
Tu sais pourquoi ?
Parce qu'on est... Non ? Vas-y, dis-moi. J'allais dire un truc.
J'en ai parlé avec une copine humoriste, parce que moi aussi j'en suis férue, je dois l'avouer.
Ouais.
Et apparemment, ce serait aussi que quand t'es née femme, tu es tellement habituée à être une victime que t'as besoin de le voir projeté, parce que tu te mets dans le scénario en te disant comment je me débrouillerais si j'avais été dans cette situation.
Ouais, je pense qu'il y a ça et le fait de je trouve ça aberrant certaines les trucs que certaines personnes peuvent faire et du coup c'est cette espèce d'incompréhension que j'ai envie vraiment de creuser, tu vois.
D'ailleurs, je rappelle que nous avons fait un épisode sur les films d'horreur et les faits divers. Allez l'écouter. Wow. Avant ça, on va écouter le Loser d'Audrey.
Quelle belle transition. Alors, je vais encore parler de séries. Cette fois-ci, je vais parler de Euphoria, ou plutôt de Sam Levinson, du coup, qui est le réalisateur, et qui aurait volé le travail d'une photographe qui s'appelle Petra Collins, alors qu'elle s'était fait virer du projet. Et donc, vraiment, je vais en parler plus tard, mais les images parlent d'elles-mêmes. Clairement, elle s'est fait voler.
Ok.
Alors, bon, on a déjà parlé dans ce podcast de Sam Levinson, en mal, bien sûr. Il avait été accusé de s'approprier déjà le travail d'artiste féminine. Souvenez-vous, il avait poussé Amy Semedz vers la sortie lors du tournage de The Idol. Et aujourd'hui, en fait, c'est au tour de la photographe canadienne Petra Collins de prendre la parole. En gros, elle affirme que Sam Levinson et HBO aussi auraient utilisé son travail sans autorisation, alors qu'elle avait collaboré sur Euphoria pendant 5 mois. Et en fait, quand on regarde le travail de Petra Collins, moi, je la connaissais depuis un petit moment. Je la suis sur Instagram comme 1 million d'autres personnes.
Ah ouais.
Y a pas photo, sans mauvais jeu de mots.
Ouais.
En gros, c'est vraiment la même esthétique, un peu, tu sais, girly, pailletée.
Ah oui, c'est bien d'elle.
Ouais, vaporeuse, mélancolique, tu sais. C'est tout elle, toutes ses photos depuis toujours, c'est ça. Et en fait, c'est la même esthétique que Euphoria. Et en fait, c'est normal puisque Petra Collins, du coup, elle a travaillé 5 mois vraiment pour créer tout l'univers.
Dès la saison 1 ?
De la saison 1, exactement.
Bah, arrête, c'est aberrant.
Et donc, en gros, comment ça a été...
Je suis cliente des polémiques.
J'adore.
Arrête.
Non. Et en gros, comment ça a été su, ça? Parce que c'est pas vraiment Petra Collins qui en a parlé ouvertement. C'est une jeune femme sous le nom de Bethany qui a révélé que le travail de la photographe avait été volé par Sam en diffusant des messages de la photographe sur Twitter. Elle a donc partagé les messages de l'artiste, donc Petra Collins, donc, qui est photographe, directrice de la photographie et qui a 30 ans. Et en fait, elle explique que Sam Levinson lui avait annoncé avoir carrément créé une série basée sur ses photos. Et ensuite, il lui avait proposé de réaliser cette série-là. Donc, hyper... flatteur, tu vois.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc évidemment, elle a dit oui, elle a déménagé à Los Angeles et elle a travaillé dessus, comme je le disais tout à l'heure, pendant 5 mois dessus, en créant vraiment tout l'univers esthétique d'Euphoria. Et en fait, il y a eu un revirement de situation. HBO lui aurait ensuite annoncé que elle est virée parce que trop jeune.
Pourquoi ?
Pas assez d'expérience.
Je comprends pas l'argument.
Pas assez d'expérience, trop jeune, soi-disant.
On
n'a pas plus de détails, je n'en sais rien. Donc elle s'est dit, ok, tant pis. Mais elle s'est dit, la série doit être annulée puisqu'on m'a virée. Et en fait, elle s'est rendue compte 1 an après, en voyant vraiment une publicité dans la rue, qu'en fait, non, la série n'est pas du tout annulée. Encore pire qu'on lui a volé carrément tout son travail, toute son esthétique qu'elle avait créée.
On l'avait payée pour les 5 mois ?
Ça, je ne sais pas.
Bon, bref, j'espère qu'elle aura des droits attachés au travail.
Je ne suis pas sûre qu'elle ait des droits, par contre, mais je pense qu'elle a été payée pour les 5 mois. Et en gros, elle raconte aussi que le plus frustrant, c'est que maintenant, en fait, tout le monde lui dit « Ah, ton travail me rappelle Euphoria ».
Oh, l'horreur.
Alors que c'est elle qui a créé le truc et elle n'est pas du tout créée. Tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, je ne sais pas s'il y aura des poursuites judiciaires. Sam Levinson ne s'est pas du tout prononcé sur toute cette polémique. Mais moi, je me dis, ça expliquerait la nette différence de qualité, je trouve, entre la première saison et la deuxième.
En termes d'esthétique.
Ouais, en termes d'esthétique et tout, d'univers. Et aussi, le fait qu'il y a le gros flop de The Idol. En fait, j'ai l'impression que quand il n'y a pas de femme à qui il peut voler des trucs, Sam Levinson, il est un peu pourri, quoi.
C'est une coquille creuse.
Un petit
coquille
peu.
Vide. Eh bien, boue, Sam Levinson.
Voilà, vraiment boue.
Et vive Petra Collins, que je vais aller follow tout de suite.
Grave.
Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine ?
Vous avez des idées ?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ?
Elle a osé. Cette semaine, notre thème, ce sont nos reines de cœur, nos reines de France, dans nos imaginations, les drag queens. Et même, vous savez quoi, les reines du monde ? Vous savez quoi ? Je pense que Jésus était la première drag queen. Vous savez quoi ? Je vais me taire pour permettre à Audrey de commencer l'introduction de l'histoire du drag.
Ouais, on s'est dit qu'on allait parler de drag, comme Mao l'a dit, puisqu'il y a ce gros succès de Drag Race France. Et moi, j'avais envie de faire un petit retour sur l'histoire du drag. Ça remonte à très 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 longtemps. Alors, juste pour celles et ceux qui ne savent peut-être
pas, Jésus la première fois. Non, vraiment.
J'ai bugué. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le drag, on ne sait jamais. peut-être que des grands-mères nous écoutent.
Maman écoute bien.
Maman, voilà, exactement. Alors le drag, c'est une forme d'art vivant de la scène dans laquelle il y a des personnes, souvent LGBTQIA+, qui s'habillent et qui adoptent des comportements ou des codes qui sont souvent associés soit au genre féminin, soit au genre masculin. Mmh. C'est vraiment la définition assez classique du truc. Alors, c'est différent du travestissement. Alors, les deux sont souvent confondus, j'ai l'impression. Mais en gros, le travestissement, ça implique généralement un degré un peu de secret. C'est souvent associé à des fétiches sexuels ou liés au genre. Et en fait, le drag, ça implique plutôt une performance du genre. L'intention, c'est de se défaire des normes du genre, justement, et de jouer un rôle, de le performer à fond, quoi.
Oui, oui.
Je sais pas si t'es d'accord avec cette définition.
Si, si, je suis hyper d'accord. Et puis, je dirais que le travestissement a un rapport... avec soi-même et le fait de découvrir autre chose, alors que le drag, même s'il y a évidemment cette notion, est une forme d'art.
Mmh.
Et pour moi, c'est un des arts les plus complets et les plus durs.
Je suis d'accord avec toi.
J'ai essayé cet été.
Oui, exactement.
C'est très dur.
Donc, moi, j'avais envie de retourner un peu sur toutes les origines de tout ça. Mmh. Et en fait, on peut retrouver le concept de se revêtir, d'incarner un genre, un peu le concept de travestissement au global, dans plein de cultures anciennes, par exemple dans la Grèce antique.
Oui.
En fait, il y avait des acteurs masculins qui incarnaient des personnages féminins, souvent au théâtre. Il y a aussi au Japon, il y a ce qu'on appelle l'onagata. En fait, c'est une tradition d'acteurs masculins qui sont spécialisés dans le fait d'interpréter des rôles féminins dans un théâtre traditionnel qui s'appelle le kabuki. Et en Guadeloupe aussi, en fait, il y a à la période du carnaval, en Guadeloupe et en Martinique, souvent, tu as les hommes aussi qui performent le genre féminin. Et je trouve ça cool, marrant et en même temps dommage parce que je me dis, il n'y a que au carnaval que, que ces hommes-là s'octroient le droit de transgresser un peu les normes de genre, alors qu'ils pourraient le faire à d'autres moments.
Bah oui, fais-le au PMU à 19h.
Non, mais pour de vrai.
Mais tu sais que c'est ouf parce que tu m'éclaires d'un coup. Tu sais, je travaille beaucoup avec Noam Sinso et il va au carnaval chaque année. Et moi, ça fait plusieurs années que je vois ses stories, je me dis, mais c'est quoi cette méga pride qui n'est pas au moment de la pride? Et
en fait,
pas
du tout, c'est le carnaval antillais où vraiment il y a cette notion un peu, c'est pas dit en tant que tel que c'est du drag, mais c'est quand même voilà la plupart du temps des hommes qui
ça m'avait l'air festif performent. Et inclusif en fait, j'ai toujours trouvé que ces stories étaient magnifiques voilà à ce moment-là.
Oui.
Donc merci de m'expliquer et merci franchement de m'instruire.
Ouais, et en fait, pendant longtemps, au théâtre, les femmes, en fait, n'étaient pas autorisées à se produire sur scène.
Oui.
Évidemment, patriarcat, voilà, on vous apprend rien. Et donc, c'était les acteurs masculins qui jouaient souvent les rôles des femmes.
Oui.
Donc, c'est un petit peu aussi comme ça que c'est, je pense que c'est né. Et puis ensuite, au 19e siècle, il y a eu beaucoup de spectacles dans lesquels les hommes s'habillaient aussi en femmes, mais plutôt à des fins comiques ou théâtrales, souvent très, très, très clichés.
Oui.
Donc, voilà.
Ça, moi, je savoure quand tu dis ça, parce que je trouve ça... tellement drôle comme ironie de me dire que c'est parce que les hommes ont tellement détesté les femmes qu'ils leur ont demandé de sortir de scène qu'ensuite ça a permis ou slash obligé à des hommes de porter des costumes féminins à tel point que c'est devenu un des arts les plus transgressifs, les plus progressistes et que l'on peut voir, c'est ce que Nikki Doll disait dans une interview récemment, comme une caricature de la féminité, mais aussi une ode. J'ai l'impression que c'est un peu l'arroseur arrosé.
Ouais, grave.
Le méchant méchanté. J'ai fait aussi mes recherches de mon côté. On remonterait la première drag queen avec vraiment ce nom de drag queen à la fin du 19e siècle aux États-Unis et on le devrait à un ancien esclave noir. Voilà encore une figure qui a été oubliée de l'histoire. Il s'appelait William Dorsey Swan. Il est né en 1858 dans le comté de Washington. Ses deux parents sont esclaves et à la fin de la guerre civile et à l'abolition de l'esclavage en 1865, donc pas dans tous les pays mais en tout cas dans celui de Washington c'était le cas, il déménage vraiment à Washington D.C. Il devient concierge et là, à la fin des années 1880, il crée des bals privés qui étaient connus sous le nom de drag. Et en fait, drag, c'était la contraction de grand rag, qui signifiait le bal masqué. Donc le fait d'être costumé. C'était aussi, à l'époque, des compétitions de danse avec la remise de prix de reine de la nuit qui faisait référence, en fait, chaque année à Washington, tu avais un grand défilé où chaque quartier de Washington était représenté par quelqu'un déguisé en reine de la liberté. Et donc, il a voulu reprendre ça à son compte et aussi à ses risques et périls parce que c'était très dangereux de s'y rendre. Il y avait régulièrement des descentes de police. Et si tu étais arrêté, ton nom était affiché dans le journal, ce qui équivalait à l'époque, à la fin finalement d'une vie sociale, à une humiliation publique. C'était aussi un des rares endroits queer, métis, où il y avait autant des personnes noires que blanches qui s'y rencontraient, puisqu'à l'époque, la ségrégation était de vigueur. Il y avait des réseaux queer blancs et des réseaux queer noirs. Mmh. Celui-ci faisait exception. Alors, ça va durer très peu de temps, puisque ça va durer moins d'un an. Mais en fait, après, il en refera quelques-uns. Mais enfin, pour faire rapidement, à partir de 1885, il y a une série de lois qui est franchement contre le travestissement. Du coup, il est lui-même arrêté. Il prend 300 jours de tôle. Okay. Il fait appel de la décision. Le mec qui prend la décision, il dit « Non, tu restes en prison ». Mais du coup, c'est à cette date-là qu'on date la première fois qu'une personne queer s'est battue pour ses droits civiques.
Oh,
donc,
okay.
De riches pensées. Et merci à William Dorsey Swan. Et d'ailleurs, je me rappelle toute l'histoire que tu viens de raconter. J'en avais fait une chronique sur France Inter. Et à la Pride, je rencontre Soa de Muse, queen parmi les queens, selon moi, j'avoue.
Oui,
la queen de
j'adore.
Saint-Denis, la queen de Paris. Et à juste titre, elle me dit, j'ai bien apprécié, mais tu as oublié cette histoire-là. Et c'était un choix. J'avais que 2,30 et j'avais choisi de raconter, en fait, le fait qu'on avait empêcher des femmes d'être sur scène. C'était ce twist-là qui m'avait amusée. Mais il faut évidemment rendre honneur à William Dorsey Swan.
Merci pour ce rappel. Moi, j'ai vu que par la suite, du coup, dans les années 1920, donc beaucoup plus tard, et début des années 30 aussi, il y avait ce qu'on appelait la Pansy Craze. Et en fait, ça a engendré vraiment un pic de popularité, pour le coup, des clubs et des artistes gays. Et donc, les personnes LGBTQIA+, se produisaient beaucoup, beaucoup sur scène, partout dans le monde, mais surtout, aux États-Unis, notamment à Times Square et à Harlem, où il y avait voilà, des numéros de travestis, voilà, vraiment les plus renommés des années 20.
Okay.
Il y avait eu un gros engouement aux États-Unis. Et en fait, à cette époque, les personnes LGBTQIA+, dont les drag queens, elles étaient évidemment, comme tu l'as rappelé, victimes de fortes discriminations sociales. Il y avait des persécutions des lieux, voilà, la police qui fermait des établissements, etc. Et donc, les gens cherchaient des espaces safe, des espaces underground, et donc, du coup, beaucoup plus cachés pour exprimer leur identité. Et c'est un peu comme ça aussi que sont nés les balls. Et il y a aussi, au début du XXe siècle, la renaissance de Harlem aux États-Unis. Pour rappel, en fait, c'est un mouvement où il y a vraiment eu un renouveau de la culture afro-américaine. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu aussi un pic également des spectacles de travestissement, notamment des communautés afro-américaines, LGBTQIA+. Ouais. C'est pour ça que les personnes racisées ont eu une grande part dans tout ça, dans le drag, dans le voguing, dans tout cet univers-là. Et en fait, les drag balls de Harlem étaient devenus hyper populaires parce qu'il y avait plein de beaux costumes hyper élaborés, des shows et des compétitions hyper élaborées, j'ai pas d'autres mots. Et en fait, les participants passaient des mois à se préparer, à coudre leurs propres tenues, comme les gens le font encore aujourd'hui.
On voit dans les séries Pose,
exactement,
ce qui est incroyable.
À répéter leurs numéros, à se créer des personnages. Et il y avait des catégories de compétition comme Butch Realness, Femme Realness, Voguing. Exactement. Et en fait, moi, je me suis demandé la différence entre drag et l'univers ballroom. Et en fait, les balls, en gros, c'est des compétitions auxquelles participent des gens, donc souvent des drag queens, mais pas que. Il n'y a pas que des drag queens qui performent dans différents genres et catégories de drag. Donc, j'en ai énuméré quelques-unes, Butch Realness, etc. Et le drag, comme on le dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est toutes les pratiques qu'un genre va adopter pour performer un autre genre.
Mm-hmm.
Donc, les deux ne sont pas vraiment opposés. Et je pense qu'on l'a un peu, je pense que les gens l'ont un peu compris. Ça a eu vraiment un énorme rôle dans la lutte des droits queer, des droits LGBTQIA+. Notamment, il y a eu les émeutes de Stonewall en 1969 qui ont été en grande partie dirigées par des drag queens et aussi des personnes transgenres et des lesbiennes qui voulaient se battre justement contre le harcèlement policier, contre la discrimination, etc.
J'y suis allée d'ailleurs.
À Stonewall.
Cet été.
Oui, ah d'accord, j'ai cru en 69.
Non, oui, j'ai fait un petit voyage dans le temps, c'est ce qu'on appelle mon week-end en festival électro. Non, mais que te dire, c'est une place maintenant commémorative avec des statues en plâtre de couples qui sont assis sur des bancs.
Okay.
C'est vrai que c'est plein d'émotions. C'est resté un bar, c'est un bar relativement commercial qui est, je pense, sans grand intérêt aujourd'hui. Mais c'est heureux qu'il puisse rester là pour un moment de pèlerinage. Moi, ma petite sœur, par exemple, est lesbienne et à Noël, elle a proposé qu'on y aille avec ma mère et mon beau-père, qui n'ont pas forcément agi de la meilleure des façons lors de son coming out. Et je pense que c'était bien. Voilà, je pense que ça peut être un endroit de réconciliation, de commémoration. Et tu peux aller amener tes parents là-bas en leur racontant ton histoire sur le chemin pour qu'après ils soient heureux. Voilà.
C'est toujours un bar queer, rassure-moi.
Oui, c'est toujours un bar queer. Surtout gay masculin, mais queer tout de même, enfin voilà.
Ok, d'accord.
Il y a des shows de drag d'ailleurs, de temps en temps là-bas.
Ok, trop bien. Bon, bah si vous avez l'occasion d'aller à Stonewall, allez-y. Avec vos parents pour faire votre coming out. Le truc, c'est vraiment une procession.
C'est grave. Je t'amène ici parce que, tiens, regarde quelques drapeaux. Tu crois que j'essaie de te dire quoi, maman? Je veux devenir diplomate. Non.
Vous n'êtes pas obligé de faire votre coming out d'ailleurs, mais si vous voulez le faire de manière très dramatique, vous pouvez suivre les pas de Mao. Et donc, après tout ça, après Stonewall, plus récemment, le drag a commencé à être hyper, hyper connu par le grand public, notamment, du coup, on va en parler, grâce à des artistes comme RuPaul et grâce aux représentations qu'il y a eu au cinéma, mais surtout à la télévision. Mm-hmm. Et donc, en 2009, il y a la fameuse émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race, qui a vraiment du coup popularisé, démocratisé la culture drag et qui a lancé pour le coup pas mal de carrières de drag queen. Et bon, moi je connaissais pas trop l'histoire du drag en France, là c'est plutôt aux États-Unis. En France, on va dire qu'au début du XXe siècle, il y avait également des spectacles de travestissement dans les cabarets, enfin, surtout à Paris, surtout dans les grandes villes. Il y avait des numéros avec des interprètes masculins qui incarnaient des personnages féminins. Après, oui, on peut parler du Moulin Rouge, du Lido, et puis aussi de Madame Arthur, etc.
Michou, tout ça,
voilà, exactement. C'est un peu toutes ces figures-là qu'il y a en France. Oui. Et fin XXe, début XXIe, il y a eu aussi une scène drag qui a vraiment émergé à Paris. Surtout dans le Marais. Voilà, ça, c'est une scène qui est beaucoup influencée par la mode, puisque Paris, capitale de la mode. Et voilà, t'as certaines drag queens qui vraiment font des petits clins d'œil comme ça, avec des éléments de la haute couture française. Puis il y a les queens, les figures des drag queens, et puis aussi des drag kings. Donc les drag queens qui ont joué un rôle crucial, on le rappelle, dans tout ce qui est remise en question des normes de genre, qui élargissent un petit peu les limites de l'identité de genre, etc. Et donc elles ont souvent un nom de scène, elles incarnent un personnage qui est quand même bien ancré en général, avec des traits de caractère, des costumes, un show. Souvent ça peut être de la danse, du théâtre, de la comédie, du chant, soit du chant en direct, soit du lip-sync. Donc voilà.
Et c'est vrai qu'à Paris, enfin en fait j'ai l'impression que là avec l'émission t'as enfin des drag queens françaises qui vont gagner leur vie grâce à ça. Mais c'est vrai que en fait il y a hyper longtemps quand j'étais en école de journalisme, la première enquête que j'ai faite c'était sur les drag queens.
Ok.
Et les deux qui avaient accepté que je les interviewe, elles font toujours du drag. C'est Mini Majesté qui est assez connue à Paris parce qu'elle tient un bingo drag à la folie.
Trop bien.
Enza Fragola. Qui est connue déjà pour ses costumes fantastiques, qui a beaucoup d'imagination. Et c'est quelqu'un que j'adore parce qu'elle prend le métro en drague depuis des années pour forcer les gens à les voir. Et aussi, elle fait des lectures de contes pour enfants.
Ouais, on en parlera tout à l'heure.
Absolument.
Et ouais, du coup, enfin, on parlait tout à l'heure de RuPaul Drag Race aux États-Unis, mais il y avait aussi plein d'autres dérivés dans tous les autres pays.
Ouais.
Moi, aux États-Unis... Enfin, je sais pas si t'as déjà regardé du coup la version originale
RuPaul's
Drag Race.
Oui, moi j'ai découvert en 2016. Oui, au début j'ai adoré, après j'y ai vu ses limites et ses critiques. Mais les premières années, en fait, ça m'a permis de découvrir un univers que je connaissais mal, comme j'adore l'imagination, le spectacle, le m'as-tu vu. C'est vrai que en fait, j'étais juste sur le sol quoi, du talent qu'on me permettait de découvrir.
Moi, je t'avoue que j'ai pas trop regardé la version originale quoi, RuPaul's Drag Race. J'ai vu des extraits comme beaucoup de gens, je pense, ça circule pas mal sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu effectivement dans les dernières saisons pas mal de critiques qui ont émergé. En gros, il y a des gens qui disent que justement, c'est cool parce que ça a permis de démocratiser le drag, mais aussi ça a permis de le gentrifier malheureusement. Et que du coup, il y avait comme une dilution, on va dire, de ses origines qui étaient un petit peu subversives. C'est de moins en moins subversif, quoi.
Ça devient mainstream.
Ça devient beaucoup plus mainstream.
Comme l'électro qui sort des raves et qui...
Exactement.
Et que David Guetta amène au chart.
Et il y en a qui disent que c'est plus, du coup, devenu un divertissement plutôt qu'une critique des normes de genre. Voilà, bon, après, on peut accoler cette critique à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements.
Oui. Parce qu'en plus, tu vois, de la part de RuPaul, je suis un peu d'accord avec toi. En plus, il a mis longtemps à accepter qu'il y ait des drag queens transgenres qui viennent sur le show. Il a fini par le faire quand même. Mais par contre, moi, ce que j'ai appris, c'est que... Alors moi, j'ai arrêté à la saison 13, je pense, ou celle 12, celle avec Nick Idol. Ouais, j'ai regardé...
Fidèle.
Ah mais... Non mais tu te rends pas compte, hein. Par exemple, il y avait des saisons, je me rappelle d'un jour, je suis en école de journalisme, je me supportais pâle pour la regarder chez moi. J'avais fait des stories en mode, enfin une bonne raison de se porter malade et tout. Hein. Non mais j'adore. Je suis une grande femme, c'est le premier sujet. Je pourrais pas dire que je suis une experte, mais je suis une fervente admiratrice en tout cas. Mmh. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des queens qui arrivent sur un runway avec leur costume et leur danse à porter un message qui va être transgressif. Mmh. Alors du coup, ça repose plus sur leurs épaules que sur celles de la production. Mais il y en a toujours, je trouve, qui arrivent à être rebelles et à faire passer des messages.
Trop bien. Il y avait une autre critique aussi, comme tu l'as évoqué, c'était que voilà, il y avait pas trop de diversité dans les personnes qui étaient représentées dans cette émission-là. Par exemple, il y avait pas trop de queens transgenres, pas trop non plus de queens racisées, mais je pense que ça évolue un petit peu.
Bah en fait, moi je trouve que ça évolue vachement avec la franchise européenne. Ouais. Genre trop bizarre que la rébellion vienne de nous, mais en fait, déjà par exemple, dans un épisode de la saison 1, il y a un drag king, enfin il y a plusieurs drag kings, c'est juste qu'il y en a un qui est un de mes potes qui s'appelle Judas Lavidange, donc je pense à lui là, qui sont présents à l'épisode 2, ça n'avait jamais été fait
c'est
dans
ce que
aucune
j'allais
franchise.
Dire. Ouais.
Et la saison 2, là, il y a tout un épisode où il fait toute une installation de mariage et tout. Et j'ai vu que là, dans la franchise allemande, pour la première fois, il y a une femme drag queen qui va venir aussi en drag king. Parce que, par exemple, je sais qu'ils ont essayé de caster des drag kings en France. J'avais plein de potes qui avaient été contactés. Mais leur question, et je la trouve légitime, c'est qu'ils se disaient, si je participe, mes costumes qui exacerbent le genre masculin, même si je mets plein de paillettes, on s'attend trop à des robes, j'y arriverai jamais. En fait, comme si c'était deux catégories trop différentes. Ils avaient peur de perdre trop d'argent, parce que c'est cher en plus pour faire ces costumes et tout. Pour en fait ne pas réussir à rivaliser. Bon, moi je rêve d'une saison, en tout cas 3, où il y a aussi des drag kings parce que leurs perfs sont. Enfin, moi j'ai jamais eu autant de frissons qu'à des perfs de drag kings, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils se donnent plus de mal, parce qu'ils sont plus.
Sous-représentés aussi, ouais.
Sous-représentés, mais il y en a un autre que j'adore qui s'appelle Père Eustache. Et ça, c'est. Enfin, bref, c'est juste des perfs, mais qui vont chercher dans le champ, dans le truc de. Bref.
Qui pousse le truc.
Oui, la relève est là. Les kings sont bien là.
Trop bien. Bah ouais, j'allais dire aussi, il y avait une critique sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de. Enfin, c'était très binaire et que c'était beaucoup les queens qu'on adore, mais du coup, il y avait beaucoup moins les drag kings et même les artistes non binaires n'étaient pas représentés. Il y avait aussi des accusations d'appropriation culturelle avec certains costumes.
Ouais.
Donc,
c'est un grand classique.
Enfin, voilà. En tout cas, il y a eu quand même un gros succès de RuPaul Drag Race. Et comme tu le disais tout à l'heure, Drag Race France, est vachement subversif et du coup ça marche plutôt bien.
Mais oui, ça marche parce que la prod, ils se sont dit, on prend les codes de la communauté française et du coup, même dans les guests, genre la première guest, tu sais, il y avait une mannequin transgenre qui s'appelle Raya, qui est une figure hyper, je trouve, connue et importante pour nous, mais pas connue du grand public et je suis trop contente qu'ils aient fait des choix. Juste sincère, et je trouve que ça paie de ouf.
C'est vrai que par rapport du coup à RuPaul Drag Race donc aux États-Unis, il y a un peu plus ce truc-là, je sais pas comment dire, mais local, je sais pas comment dire.
Virginie Despentes, guest, franchement, c'est des choses, mais merci de l'avoir.
C'est ça. Et il y avait une critique qui avait été émise aussi pour la version du coup US, c'était que c'était tellement gros, c'était tellement énorme, et c'était tellement, comment dire, une esthétique assez. T'avais vraiment l'esthétique RuPaul Drag Race.
Ouais, il y a une esthétique, je suis d'accord.
C'est ça. Imposé et que du coup les personnes un peu plus, moins connues et plus locales, etc., se sentaient délaissées d'une part et aussi obligées de coller à cette esthétique là même en dehors de l'émission parce que les gens avaient l'impression que le drag c'est ça, c'est RuPaul Drag Race et c'est pas autre chose.
Je suis d'accord.
Et que du coup ça laissait un peu moins de place à ce que c'est vraiment de subversif et de créatif, tu vois.
Ouais.
En tout cas, la version française fonctionne très bien, 2,1 millions de vidéos vues cumulées sur France TV. Enfin, il y a des chiffres extraordinaires. L'âge moyen c'est 34 ans, je crois, donc c'est quand même une cible assez jeune.
C'est genre plus de 60 ans l'âge moyen des gens qui regardent la télé en général, donc c'est une vraie révolution quoi.
Tu vois, ça a vraiment révolutionné le paysage de la télé française.
Oui. Et franchement, non, mais voir des personnages aussi badass, tu vois, que La Briochée ou que Soa de Muse sur le service public, j'en suis vraiment reconnaissante et je pense que. Puis ça ouvre. En fait, le problème, en plus, je trouve que c'est que quand on est dans des sociétés qui se parlent pas et qui se regardent pas et qui sont pas représentées, les gens ont peur les uns des autres. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui avaient des préjugés homophobes. Et en fait, en voyant que c'est un art, en découvrant des personnages, je suis sûre qu'il y a plein genre, de vieux gars qui étaient en mode genre. Mais en fait,
c'est pas mal.
Faut que je m'ouvre. Voilà, donc c'est la saison 1 est un succès, présentée par Nikki Doll, qui est la seule drag française d'ailleurs à avoir participé à une émission américaine. Et voilà, tel succès qu'il y a une saison 2. Il y a une saison 3 qui a été re-signée juste après. Ils ont pu faire en plus du coup une finale en public. C'était la folie, tout le monde voulait avoir son invitation. Mais je t'avoue, en fait, Audrey, je crois que mon rêve c'est d'être guest judge.
Je te verrai bien.
C'est vrai, avec le Camus,
c'est lancé. Si vous, si vous nous entendez.
La saison 2, Keyona a gagné. On va en faire un petit mot sur Keyona, qui s'appelle comme ça en référence à sa nièce et qui est d'ailleurs la première queen noire hors US à gagner sur une franchise en dehors des États-Unis, bah parce que tout simplement, c'est la plus forte. Écoute, elle est technique, elle est gentille, elle est intéressante. C'est la reine du ballroom. Elle a aussi été finaliste d'une émission qui est un peu comme Drag Race, mais sur le ballroom. Okay. C'est une compétition de voguing qui s'appelle Legendary sur HBO. Oui. Et elle est arrivée parmi les finalistes because she's so forte. Ouais. Avec sa house, puisqu'elle est mother de sa house, la mother de la house Revlon. Fun fact, en 2021, elle a participé aux Reines du Make-up sur M6.
Wow.
C'est une mini émission, mais elle a gagné aussi. Parce qu'elle est trop forte.
Mais elle gagne tout, elle rafle tous les prix.
Et Keyona, j'ai eu la chance de partager quelques scènes avec elle, puisqu'elle faisait partie du cabaret de poussière en avril de cette année. Et c'était marrant parce qu'en fait, ça avait été les épisodes avaient été tournés jusqu'à la demi-finale.
Ok.
Et je sais pas, je la sentais en confiance forte et tout. À un moment, je lui ai dit, mais c'est pas trop bizarre de te dire que tu vas être connue, il y a des épisodes qui existent mais qui n'ont pas encore été diffusés.
Ouais.
Et là, on était un petit groupe, elle a dit, mais si, mais en plus, j'ai vraiment fait un truc de ouf, mais je peux pas vous dire. Bon, à ce moment-là, c'était sûr du coup qu'elle était en demi-finale.
Mmh.
Mais du coup, bon bref, elle était d'ailleurs extrêmement forte sur cette scène-là. Super costume, elle danse trop bien, elle chante trop bien. D'ailleurs, elle a sorti un son qui s'appelle Déjà une star, vous pouvez aller écouter.
Ok.
Et je voulais faire un big up dans mon panthéon aux autres queens que j'ai adoré.
Vas-y.
Bah, qui sont Ginger Beach, je sais pas si tu l'as bien
oui.
aimé.
Oui.
Moi, c'est un peu comme Lola la Diva.
Je l'adore.
Je dis pas juste ça parce qu'elles viennent du sud et qu'elles sont rondes, mais je trouve qu'elles ont ce truc hyper badass d'humour, de comédie queen qu'elles ont amené. En plus, on voit rarement des queens de plus de 40 ans.
C'est
et
vrai.
Elles ont rien à envier aux plus jeunes, en fait. Elles ont grave eu leur bail. Bah, Sarah Forever, j'admets que oui, je souhaite qu'elle représente la France à l'Eurovision. Et Pounani, très technique, enfin, très très forte également. Et Mami Wata, je pense qu'il faut faire un trône pour Mami Wata, qui est touchante, qui est forte, le parcours est incroyable.
Il y avait beaucoup de queens touchantes. J'ai pas encore fini, pardon, mais.
En fait, c'est ouf parce qu'au début de la saison 2, je me suis dit, je vais pas réussir à m'attacher autant que la saison 1.
Ouais.
Et en fait, ils ont encore relevé le défi, c'était encore plus fort, je trouve. Est-ce qu'il y a une queen que t'as particulièrement aimée qui n'aurait pas gagné?
Moi, j'ai beaucoup aimé Moon, du coup.
Ah, oui.
J'aime bien tout son univers. Elle est un peu
sorcière geek, je
dark,
crois.
Geek. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien sa personnalité, j'aimais bien ses shows.
Je pense que la France est amoureuse de Moon. Hein.
Ouais.
Mon meilleur ami est amoureux d'elle maintenant.
C'est vrai?
Ah, mais il a passé l'été à me parler d'elle.
Ok. Bah, donc, Moon, si tu nous,
voilà,
si tu nous entends.
Voilà, il y a un homme qui s'appelle Julien qui te cherche dans Paris et qui est prêt à crier.
Je pense
Moon,
que c'est pas le
Moon.
Seul. Et ouais, en fait, moi, ça me fait plaisir aussi parce qu'il y a un contexte quand même assez particulier pour les drag queens en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs. Mais pour rappel, comme il y a une visibilité croissante des queens, du coup, c'est un peu à double tranchant puisque en France, il y a pas mal de manifestations depuis plusieurs mois qui perturbent les séances de lecture pour enfants animées par les drag queens. T'en parlais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est des séances de lecture de textes.
Avec des gens pailletés, c'est terrible.
Non,
les enfants deviennent homosexuels en 2 secondes.
En plus.
Et ils sont joyeux. Dites-vous qu'ils dansent parfois.
Non, mais en plus, c'est des textes sur l'égalité, sur le respect, sur l'amour. Donc,
c'est horrible ce wokisme, d'accord?
Ouais, c'est affreux, quoi.
Je refuse que ma fille ait les mêmes droits que mon fils imaginaire.
Franchement, c'est n'importe quoi. Organisé en plus depuis plusieurs années, mais du coup, vu qu'il y a une croissance de cette visibilité-là, ben, en fait, il y a plusieurs attaques de l'extrême droite qui sont de plus en plus fréquentes. Et en fait, ça part souvent de polémiques sur les réseaux sociaux qui sont diffusées encore et toujours par des médias de droite et d'extrême droite, grossies, déformées à souhait. Et ensuite, il y a des menaces, des manifestations, des interdictions de ces lectures effroyables de textes à des enfants. Et donc voilà, comme d'habitude, tu sais, t'as toujours des opposants qui sont hyper inquiets de l'influence que peuvent avoir les personnes queer sur leurs enfants. C'est un petit peu le même discours qu'il y avait eu pour le mariage pour tous en 2012. Enfin, et puis c'est des attaques voilà, qui se produisent aussi dans un contexte particulier de montée en puissance d'un discours hyper transphobe, parce que les gens confondent un petit peu tout. Ils se disent, bon, alors il y a des hommes qui prennent voilà, des apparats.
Non, mais c'est vrai que les gens, c'est peu de choses. À New York, je suis allée voir un drag show avec ma sœur et son amoureux. Et son amoureux, il découvrait vraiment pour la première fois. Alors, il a été épaté, il a trouvé ça incroyable et tout. Mais elles étaient en body et elles faisaient des grands écarts. Et il a cru que c'était des femmes transgenres.
Oui,
il
voilà.
m'a dit, mais elles se sont... bon, il est pas woke, mais il s'exprime avec toute sa bienveillance, mais avec ses mots. Donc, il me dit, mais non, mais elles se sont coupées le pénis. Et je suis en mode, mais pas du tout. Il y a un truc qui s'appelle le tucking. Après, je lui ai montré une vidéo de tucking. Et du coup, il était en mode, mais c'était ses nouvelles héroïnes, genre de Jeux Olympiques. Et je suis en mode, mais non, elles avaient le là, elles sont allées sur le sol pour en faire
un. Ouais. Il y a des gens qui
les gens ne
tout,
savent
ouais.
juste pas. Donc, oui. Ils aillent rencontrer, ils connaissent
c'est
pas.
C'est ça, exactement. Et du coup, il y a un espèce de discours qui se mélange. Donc, ils voient, voilà, les drag queens qui lisent des histoires aux enfants. Et il y a des discours, du coup, transphobes. Enfin, tout se mélange. La haine, voilà. La haine se mélange. Et aux États-Unis aussi, il y avait eu pas mal d'artistes drag qui avaient fait face à ce même genre de truc pour les lectures. Et du coup, pour le coup, aux États-Unis, c'était beaucoup plus grave parce que j'espère que ça va pas arriver en France, mais il y a eu des lois carrément qui ont interdit ce genre de lecture, notamment au Tennessee. Donc, dans tout ce contexte-là, quand même contente que ça ait un certain succès en France, que cette émission existe, que finalement ça se démocratise en espérant que ça n'écrase pas non plus les queens locales. Mais je trouve ça quand même plutôt positif globalement. Je sais pas ce que t'en penses. Évidemment, je pense que tu penses la même chose.
Mais... que c'est positif. Tout n'est pas parfait, mais je suis contente qu'il y ait des initiatives et des émissions de représentation qui, au final, aident juste à l'amour, même si elles sont pas parfaites.
Oui, vive les queens.
Aïe. Oula, le feu, ça brûle.
Ça me fascine.
Au bûcher.
Ok.
Ding dong, c'est la sorcière.
N'importe quoi.
Aujourd'hui, c'est le retour de la rôtisserie. Et je voulais parler de la nouvelle Marlène Schiappa. Car moi, humoriste, c'est ce que j'appelle une pépitage bravasse. Elle est comme Gérald Darmanin. Quand je crois qu'elle me donne plus de matière, elle m'en donne encore. Et elle a une successeuse. Et comme vous, je me serais dit, Aurore Berger, c'est une blague en soi, qu'elle soit la solidarité. Il y a une blague encore plus drôle. Une nouvelle ministre à la ville qui s'appelle... Sabrina Agresti-Roubache. Alors je te fais sa petite bio parce que tout commence bien. Au début, tout est fait pour qu'on l'aime. Elle grandit dans une cité de Marseille. Elle vient d'un milieu modeste. Son père est maçon. Elle a 5 frères et sœurs. Et donc moi, je me dis, bon, ça force le respect. C'est un personnage de plus belle la vie. Franchement, vas-y, go girl, attaque cette assemblée. Va représenter le peuple. Alors elle est productrice audiovisuelle en plus auprès de groupes comme par exemple le groupe de rap I Am. Je me dis, mais légendaire, la meuf est beaucoup trop cool. Et je sais pas pourquoi, après, le personnage de série s'effrite, c'est terrible. Déjà, elle est macroniste. C'est pas facile pour moi. Elle a été élue députée en 2022. Elle est aussi conseillère régionale et elle est aussi ministre de la ville. Déjà, j'ai une petite question. Il n'y a pas une loi contre le cumul des mandats? Parce que juste, ça fait un peu beaucoup pour être partout au même endroit. Je sais que moi, je suis juste humoriste et chroniqueuse et franchement, je suis en mode peut-être qu'il va falloir que j'arrête de boire. Donc, je ne sais pas comment elle fait. Elle se positionne contre la légalisation du cannabis. Tu sais quoi, je suis sûre que c'est parce qu'elle n'a jamais fumé. Et moi, je suis contre les gens qui fument jamais. Franchement, vas-y, prends une taf. C'est comme les mecs qui ne font pas de cuni. Personne n'est mort en buvant la tasse. Amuse-toi, meuf. Elle fait le lien entre insécurité et immigration dans une interview au journal La Provence. Je cite. Regardez les chiffres. Selon les chiffres officiels, 50% de la délinquance de la voie publique est commise par des étrangers. C'est nul. Je suis trop déçue.
Moi aussi.
J'avais tellement foi en toi, Sabrina. Tout de suite, là, on dirait la droite. Moi, selon mes chiffres sortis de mon imagination, 50% de la délinquance en col blanc est commise par des politiciens ou des politiciennes. J'ai que ça à dire. En février, elle sort un livre, Moi, la France, je la kiffe. Comment elle parle grave le jeune, sans pas du tout une stratégie. Je pense que son prochain livre s'appellera Le cumul quoi? Quoi coubé? Lol, trop forte Sabrina. Bref, en juin, je reviens un peu en arrière pour vous dire le contexte de pourquoi j'ai envie de la retirer. Le JDD se met en grève pendant 40 jours. Toute la rédaction s'oppose à la prise de fonction du nouveau rédac-chef Geoffroy Lejeune. Déjà, c'est un nom. Tu sais que ça va pas bien. À mon avis, il est fan de Jupe Plissée et de la loi El Khomri. Il est imposé par le nouveau proprio du journal qui s'appelle Bolloré. Bolloré, qui est connu pour être fan de lui-même. Donc ça ne commence pas bien. Geoffroy, c'est l'ancien gars de Valeurs Actuelles. C'est un catoréac aux positions absolument raciste. On est plus dans un remake des années brunes, mais je pense que maintenant, on est carrément dans un remake des années marron foncé. Mais franchement, avec le reflet, je pense qu'on dirait les années noires. Bref, la grève se termine. Une soixantaine de journalistes démissionnent. Et le premier numéro, en plus, est un torchon. Vraiment, tout ce qu'on m'a appris en école de journalisme, c'est une contre-leçon. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc, ils avaient mis à l'honneur un fait divers d'un jeune homme qui avait été, enfin pas un jeune homme, un enfant qui avait été assassiné à la suite d'un harcèlement scolaire et ils ont mis la mauvaise photo de la mauvaise marche blanche. Tu sais, c'est National Geographic qui essaie de parler, je sais pas moi, de la fonte des glaces. Il y a le désert du Sahara. Après, tu sais quoi, dans quelques années, peut-être avec la fin du monde,
aussi,
ça aura vraiment lieu en fait.
C'est ça.
Et alors, tu te serais dit à ce moment-là, bon, les politiques vont soutenir les journalistes qui ont démissionné. Par exemple, rapidement, le PS et les Verts ont dit « Nous, les gars, nous contactez App, on ne répondra pas aux interviews. » Eh bien, elle, oui. Voilà. Je sais pas quoi dire. Enfin, la vanne est juste là, quoi. Première interview, l'angle,
C'est les émeutes après la mort de Naël. C'est pas la mort de Naël, c'est les émeutes après la mort de Naël.
Et ça dit quelque chose parce que le travestissement d'une partie de la presse historique en outil de propagande d'extrême droite, parce que c'est ce que c'est, comme CNews l'est aujourd'hui, je suis désolée, faut pas se leurrer. Bon, après je mets pas les pieds dans le plat, enfin c'est un truc qu'on sait depuis longtemps, je suis pas en train de vous annoncer une breaking news, mais... C'est une chose, mais par contre, que ce travestissement soit banalisé par une partie du pouvoir, c'en est une autre. C'est comme si, par exemple, dans Transformers, il y a des méchants, et le Pentagone, il invite les méchants à boire le thé. C'est un exemple d'enfant, volontairement, Audrey. Parce que j'ai l'impression, quand je pense à Sabrina, d'avoir affaire à une petite fille dont c'est pas l'anniversaire, et qui est là, moi aussi j'ai eu 6 ans, il y a 6 ans, mais un jour j'ai eu 6 ans. Sa justification, il faut respecter la pluralité de la presse. Mais en fait, là, on parle d'une presse qui ne respecte même pas la déontologie et la partialité attendue. Elle ne nous respecte pas. Donc, je ne peux pas prendre au sérieux cette nouvelle ministre qui accepte à tour de bras toutes les invitations de visibilité. La semaine dernière, par exemple, elle avait un déplacement. Et il y a un journaliste qui s'appelle Paul Laroutourou qui s'occupe de la politique pour TF1 et LCI. Et donc, lui, c'est sa rentrée. Il dit que maintenant, il va suivre des personnalités avec son téléphone portable pour faire une nouvelle info connectée. Et il dit, il y a une ministre qui a accepté que je la suive pendant plusieurs jours. C'est qui ? C'est Sabriche.
Sabrice.
Non mais bref, et donc c'est pour ça que je la voyais un petit peu comme l'héritière de Marlène Schiappa, parce que Marlène Schiappa a utilisé tous ses mandats pour les mettre à son service et au service de son image, et comme elle, elle a besoin visiblement d'attention. J'ai donc une annonce inédite à faire car j'ai des dons de voyance. Nous sommes le 7 juillet 2029 et Sabrina Agresti-Roubache bouscule la grille du PAF pour la rentrée et sera chroniqueuse sur TPMP suite à la retraite et à l'AVC de Ségolène Royal. En tout cas, je rêve aujourd'hui d'un monde où les ministres sont là pour changer la vie des autres et non la leur.
C'est quoi ta reco ?
Whatever.
Franchement, c'est vraiment hyper niche.
Je l'ai vu sur Twitter.
J'ai pas envie d'être méchante.
Mais j'adore.
C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Cette semaine, je vais vous recommander un film que j'ai pu voir aujourd'hui en avant-première et qui sort le 4 octobre prochain en salle et qui s'appelle Le règne animal. C'est un film de Thomas Caillet. Dedans, il y a Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et
Adèle.
Paul Kircher.
Ouais. C'est un réflexe que j'ai, pardon.
Adèle. De manière rêveuse. Et c'est un film qui a fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2023. Donc voilà. Un bon petit film, quoi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment plongée dans un univers auquel je ne m'attendais pas. J'avais volontairement pas lu le synopsis, mais je vais vous le lire à vous pour que vous puissiez vous mettre un petit peu dans le bain. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Donc c'est un truc fantastique, ce que je trouve assez cool pour un film français. Enfin, c'est assez rare, en vrai.
Et c'est pas cringe.
C'est pas cringe.
Ok, génial.
J'avais peur que ce soit cringe. Et en fait, c'est comme un espèce de bestiaire avec des êtres hybrides qui sont du coup dans le film diabolisés, chassés par la majorité des humains. Et donc l'intrigue commence assez fort puisque dès les premières minutes, en fait, tu vois directement en fait les créatures qui sont appelées bestioles dans le film. Et justement, la présence de ces créatures-là, elle est très vite, on comprend que c'est normalisé. En gros, c'est devenu le lot quotidien de voir apparaître de temps en temps ces créatures-là, mais elles sont... Enfin, tout le monde veut les exterminer, c'est un petit peu l'ennemi à abattre. Elles font peur, on essaye tantôt de les comprendre, de les analyser, d'un peu les canaliser et à la fois de les chasser. Mais pour autant, enfin, leur présence ne choque plus, quoi. Enfin, c'est un fait établi. Et en fait, ce film-là, moi, j'ai vu des parallèles avec le Covid. Pour autant, il a été écrit avant le Covid, mais j'ai eu cette même impression un peu irréelle, tu sais, quand on a dû s'habituer à toutes les situations autour du Covid, toutes les mesures de distanciation liées à la pandémie, toute la peur que ça avait engendré, qu'il y avait autour, avec parfois des réactions un peu démesurées ou épidermiques. Et donc, ouais, j'ai vu un certain parallèle avec ça. Et puis voilà, donc on suit le père et son fils qui, je ne fais pas de spoiler, ne vous inquiétez pas, on le sait dès le début. En fait, ils ont perdu donc leur mère et leur femme, du coup, qui a commencé à muter. qui a commencé à se transformer et qui a été interné pour suivre un traitement qui est censé ralentir sa transformation et un peu contenir le danger. Parce que au début, quand les personnes se transforment, voilà, il y a la peur et puis c'est, il y a la peur à la fois de la personne aussi qui se transforme, qui comprend pas vraiment ce qui lui arrive.
D'accord.
Parfois avec un peu d'agressivité. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'elles sont pourchassées, parfois détenues et parfois même tuées.
Okay.
Globalement, il y a de très très belles images. On est complètement plongé dans la nature. Ça a été tourné dans les Landes, en Dordogne et en Gironde. Donc, c'est des beaux paysages, voilà, dans la forêt. Moi, j'adore la forêt. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai pas l'habitude de voir du cinéma français fantastique. Surtout que là, comme on le disait, c'est pas cringe. Et puis, c'est mêlé en fait avec des éléments hyper actuels. On est en France, on est dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas plongé dans un univers à 100% fantastique, ça a lieu vraiment aujourd'hui, mais avec des éléments un peu fictifs, avec ces êtres hybrides, quoi. Et j'y ai vu aussi des parallèles, évidemment, avec l'écologie, avec la menace des espèces, avec aussi le spécisme. Pourquoi est-ce que l'être humain serait supérieur au reste des animaux ? Au racisme aussi, parce que bah, c'est des êtres minorisés, différents, qui sont pourchassés, analysés dans des laboratoires, etc. Même tués par peur, par ignorance et par besoin de maintenir un espèce de contrôle. Et il y a aussi des personnages qui luttent justement pour la liberté de ces créatures-là. Il y a aussi un parallèle avec le deuil, puisque les personnes qui se transforment, au final, tu les perds un petit peu. Tu perds la personne que tu as connue. Et puis surtout, les personnes qui se transforment, si elles ne sont pas attrapées, enfermées, bah, elles partent dans la nature et tu ne les revois plus jamais. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs, tout un tas de parallèles. Je trouve ça super touchant. Au final, ça part de quelque chose d'assez simple, mais ça raconte plein de choses différentes. Je pense qu'on peut y projeter plein de trucs. Et puis voilà, après il y a quand même des revirements de situation que moi j'avais un peu vu venir.
Ouais.
Mais globalement ça se regarde super bien et je trouve ça très beau, très touchant. Donc voilà, allez voir Le Règne Animal qui sort du coup le 4 octobre en salle.
Merci beaucoup Audrey pour cette reco. Écoutez, allez au cinéma si vous n'avez pas peur des punaises de lit. Allez.
En vrai, j'ai grave eu peur, tu sais, quand j'ai été m'asseoir dans la salle de cinéma, j'étais pas sereine.
Okay, bah j'ai une de mes potes, ça me fait trop rire, elle a fait une story aujourd'hui, elle a dit « Je vais au cinéma en bleu de travail ». Comme ça, il n'y a aucun de ses vêtements qui accroche. En tout cas, merci de nous écouter. N'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes préférences. Il y a des thèmes qu'on a abordés que vous avez envie de connaître plus en profondeur, comme The Idol, on avait un épisode dessus, etc. etc. Je m'en rappelle plus, mais je suis sûre qu'il y avait plein de trucs géniaux. En tout cas, on se retrouve le 16 octobre au théâtre Le Pic. En gros, je vous explique, c'est un truc trop cool.
Oui.
Avec un autre podcast qui s'appelle « J'ai vendu des photos de mes pieds ». Je me trompe pas, c'est bien
on
ça.
On a vendu des photos de nos
pieds. On a vendu, car elles étaient deux.
Elles sont deux.
Et nous-mêmes, les mains dans la pop, donc vos trois chroniqueuses préférées, j'ai nommé Kumbis, Audrey et Afida Turner. Je fais partie du trio, non, et moi-même. On vous attend et on va concocter un spectacle de podcast avec des chroniques, des jeux avec vous, etc. La billetterie est en description et à très vite. Bisous,
à très
Audrey.
Vite, bye bye. Les mains dans la pop est une émission de nouvelles écoutes, animée par Audrey Coupé de Kermadec
et Mao Drama.
Produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement au studio Caleçon, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, chargée de développement éditorial Pietra Reginato.